grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Dans sa bande dessinée consacrée à l'histoire de la médecine, le professeur Jean-Noël Fabiani montre comment la médecine s'est perfectionnée au fil des siècles, s'est progressivement basée sur des preuves scientifiques, s'est technicisée en s'appuyant sur l'intelligence artificielle dans certaines spécialités, une médecine qui a accompagné la révolution pharmaceutique des 19e et 20e siècles, de la vaccination aux antibiotiques, une médecine sophistiquée, performante pour le bien de milliards d'individus. Et si dans le même temps, les patients faisaient également leur révolution en puisant dans leurs ressources internes pour prévenir, ralentir l'apparition de certaines pathologies. C'est tout l'objet de la médecine du bon sens, une médecine préventive qui se base essentiellement sur des mesures hygiéno-diététiques. Nous verrons ce matin quels sont les grands principes et les limites de cette médecine du bon sens avec le cardiologue Frédéric Salman et le psychiatre Michel Lejoyeux. Avec nous également, comme chaque lundi, Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Question témoignage au 01 45 24 7 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Ça va, vous êtes en pleine forme ?
En pleine forme.
Romancier, médecin, vous avez beaucoup de choses à dire sur notre sujet ce matin. Et on vous retrouve tout à l'heure pour votre chronique Alors Voilà, qui nous raconte tous les lundis une médecine à visage humain.
Oui, aujourd'hui je vais vous parler des petites phrases toutes faites dont il faut essayer parfois de se défaire.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Frédéric Salman.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue, auteur à succès. Vous publiez Vital chez Albin Michel. Bonjour Michel Lejoyeux.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie, chef de service dans plusieurs hôpitaux parisiens. Et vous publiez La médecine du bon sens chez Lattès. C'est quoi la médecine du bon sens? C'est une médecine simpliste, un peu rétrograde?
Pour moi, la médecine du bon sens, c'est la redécouverte de ce que Hippocrate disait, c'est-à-dire notre capacité d'auto-guérison, d'auto-protection. Vous savez, Hippocrate était parti d'un petit réflexe qui est le réflexe de clignement des yeux. Naturellement, quand quelque chose s'approche de votre œil, c'est un réflexe, vous allez fermer votre œil pour le protéger. Nous avons en nous beaucoup de pouvoirs naturels de protection dont nous ne nous servons pas assez. Puis Hippocrate disait aussi quelque chose d'essentiel pour la médecine, d'abord ne pas nuire. Si on enlève de sa vie les vrais toxiques, les grands toxiques, on se fait déjà beaucoup de bien.
Frédéric Salman, c'est quoi la médecine du bon sens pour vous ?
La médecine du bon sens, c'est celle qui fait d'abord beaucoup de bien. Vous savez, il existe au plus profond de l'être humain des moyens d'auto-guérison extrêmement puissants. Il suffit de les connaître pour les activer et en bénéficier, pour se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir. Et je dirais que la médecine du bon sens, ça commence d'abord par s'écouter. Écouter son corps, écouter ses propres signaux. Vous savez, regardez, on est en ce moment à 10h du matin, à midi, vous allez avoir faim. Eh bien, on vit dans un monde aujourd'hui où c'est un symptôme, un médicament. J'ai mal au dos, un antalgique, j'arrive pas à dormir, un somnifère, je suis triste, un antidépresseur, etc. Eh bien, j'ai faim, oh, quelle calamité, vite je mange. Eh bien, on a fait une découverte, c'est que la faim, justement, est provoquée par la gréline, c'est l'hormone de l'appétit. Mais cette même gréline, elle a une autre action, elle stimule l'autophagie. Ça, c'était récompensé par 3 prix Nobel il y a 3 ans et qui montre tout simplement que cette autophagie, c'est une cure de détox express. Ça permet d'éliminer les vieilles cellules malades, mortes, mal formées qui peuvent provoquer des maladies et c'est d'un seul coup une sorte de purification intérieure. En plus, cette même gréline, cette hormone de la faim, elle booste l'hormone de croissance jusqu'à 2000%, c'est comme une hormone anti-vieillissement. Donc quand la faim apparaît, avec bon sens, vous dites « elle me fait du bien ». Et si vous êtes capable pendant 20 minutes de garder cette faim, vous allez vous faire une vraie cure de détox et de jeunesse.
Michel Lejoyeux, cette médecine du bon sens n'a rien de révolutionnaire, mais elle peut révolutionner nos vies.
Elle est quand même assez révolutionnaire parce que ces données-là, ces pouvoirs-là, on les connaissait pas. J'ai pas le courage de mon collègue et ami Frédéric Salman d'autoriser des jeûnes, mais je sais quand même que notre esprit, et il y a une étude très récente qui vient de le montrer, notre esprit est plus créatif, plus alerte, plus capable de traiter des dossiers compliqués. À quel moment ? Le matin, avant le petit déjeuner avec simplement un peu d'hydratation. Et on l'a montré très objectivement. Donc on va un peu dans le même sens. Se servir de moments où on est très, très efficace, mais qu'on n'utilise pas assez.
Pourquoi Sisyphe est-il un modèle pour bien comprendre la médecine du bon sens, Michel Lejoyeux ?
Parce que Sisyphe, c'est
rappelez-nous
vous.
Ce célèbre mythe.
Ouais, Sisyphe, c'est vous, c'est moi, c'est quelqu'un qui est condamné par les divinités grecques à soulever un rocher et à se le reprendre en permanence sur la figure. Et ce qu'on a appris en psychologie, c'est que ce qui est important, c'est pas tellement la réussite ou l'échec. Vous savez qu'on a tous dans nos vies des réussites, des échecs. Ce qui est important, c'est Albert Camus qui l'a dit merveilleusement, et c'est lui qui a merveilleusement écrit le mythe de Sisyphe. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Si on était aujourd'hui psychologue, on dirait, au moment où Sisyphe fait son effort, fait son mouvement, applique, si j'ose le dire comme ça, cette médecine du bon sens, dans cette ouverture à l'instant présent, il est heureux, même si à la fin, et c'est malheureusement notre destin, on reprend le rocher sur la tête. Il y a une capacité à vivre l'instant présent.
Comment en êtes-vous venu à prôner cette médecine davantage préventive que curative ?
Pour deux choses. D'abord, sur deux raisons. La première, c'est que dans tous les champs de la médecine, en dehors de la psy, c'était complètement banal. Le grand cardiologue qui est en face de moi n'a pas de doute sur le fait qu'un cardiologue, c'est pas uniquement quelqu'un qui traite les infarctus en urgence, c'est aussi quelqu'un qui donne des moyens de ne pas en avoir. On a découvert que la manière de manger, la manière de penser agit aussi sur la fréquence des maladies psy. Puis la deuxième chose, c'est un certain nombre de livres très magiques que j'ai synthétisés dans la médecine du bon sens qui montrent que depuis les hommes préhistoriques, notre cerveau s'est développé grâce à des super pouvoirs, notamment de mouvement. Les hommes préhistoriques ont développé leur cerveau en marchant, en mastiquant. Faudrait pas qu'on oublie tout ça et qu'on ratatine notre cerveau à cause de l'ordinateur et de la position assise qu'on a en permanence.
Frédéric Salmann, comment en êtes-vous venu à défendre cette médecine préventive ?
Très simplement, à l'instant, Michel Lejoyeux parlait du jeûne. Et je me suis intéressé d'abord au jeûne, très simplement parce que dans mon métier en cardiologie, les gens, leur façon de vivre fait qu'ils font beaucoup plus de maladies cardiovasculaires. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Moi, je m'intéresse au jeûne séquentiel. Qu'est-ce que c'est ? Pendant 14 heures, vous décidez d'arrêter de manger s'il n'y a pas de contre-indication de votre médecin traitant. Mais vous buvez beaucoup de l'eau, des tisanes, du thé. Ça veut dire, par exemple, vous avez arrêté de dîner à 21h, vous déjeunez à 13h. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le teint est plus clair, plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergies, moins de rhumatisme. On est très bien.
Au bout de combien de temps ?
Alors justement, c'est 14 heures, la durée de ce jeûne.
Il faut faire des jeûnes séquentiels pendant combien de temps, justement, pour qu'on ait ces bénéfices ?
Écoutez, moi je le fais tous les jours. Et on s'est aperçu qu'à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le problème, c'est que plus on avance en âge, plus le risque d'erreur de copie augmente, pouvant donner lieu à des cancers. Quand on fait ce jeûne séquentiel, on renforce son ADN. Ce qui veut dire qu'on fait moins d'erreurs de copie. Quand nous, on l'a fait chez des souris, elles ont fait 20% de cancers en moins. En fait, vous savez, depuis le début de l'humanité, on est plutôt à un ou deux repas, pas trois ou quatre. C'est comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limité à prendre. Et en fait, toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parlent du jeûne comme un message du fond de la nuit des temps. En fait, on réactive une mémoire biologique ancienne, on lutte contre notre obsolescence programmée, on laisse au corps le temps de se régénérer, de se réparer.
Baptiste Beaulieu.
Et comment ont été menées les études sur les souris dont vous parliez à propos du jeûne ? Est-ce que les mêmes études ont pu être transposées à l'être humain, par
exemple ? Tout à fait. On a fait ces études. Ce qui est sorti fin 2018, c'est la durée justement de ce jeûne séquentiel. Et on s'est aperçu qu'au bout de 14 heures, la pression artérielle, le cholestérol, le sucre et même la CRP, qui est le taux d'inflammation, chute.
Et du coup, ce que vous préconisez, puisque vous l'appliquez à vous-même, c'est de ne pas prendre de petit déjeuner, par exemple ?
Alors, vous savez, l'histoire, c'est deux repas au lieu de trois.
D'accord.
Pour ma part, le plus pratique que j'ai trouvé, c'est de sauter le petit déjeuner. Vous savez, plein de gens, le matin, se disent « il faut que je mange ». C'est quoi « il faut » ? Écoutez, vous avez faim ou pas ? Et la partie séquentielle est importante. Par exemple, le fait de prendre son café, non pas en se levant, mais plutôt vers 11 heures, c'est beaucoup mieux.
Pourquoi ?
Parce que le matin, vous avez un taux de cortisol qui donne cette énergie qui est élevé. Donc si vous prenez du café en même temps, ça fait double effet. Quand il va chuter vers 11 heures, si vous reprenez votre café à ce moment-là, c'est un relais d'énergie que vous aurez.
Michel Lejoyeux.
Oui, deux petites choses. D'abord, à ce moment du matin, avant justement l'apport en sucre, probablement aussi avec un effet stimulant de l'hypoglycémie, vous pouvez utiliser ce moment-là pour traiter les dossiers les plus compliqués. Vous savez, on a tendance à dire « je remets au soir » parce que on est vraiment pas bon le soir, on n'est pas bon après le repas, nos neurones sont un peu intoxiqués par le sucre. Et puis, ce qui est important, c'est de repérer les effets de ces expériences. Vous voyez, une autre expérience sur laquelle je m'appuie beaucoup dans le livre, c'est 6 minutes de marche rapide. Vous marchez 6 minutes le matin pour aller bosser, même quand il fait froid ou quand là on a un beau soleil. Au bout de 6 minutes, ça a été montré par une étude allemande, votre niveau de bonne humeur augmente de 30%. Donc il suffit de faire cette expérience-là pour en repérer les effets.
Frédéric Salmann, vous êtes réputé comme étant le médecin des puissants et des stars, et pourtant vous continuez à consulter à l'hôpital public à Georges Pompidou, au tarif sécu, avec tout de même, je crois savoir, 1 ou 2 ans d'attente. Comment se passe une consultation à l'hôpital public avec vous ? Il paraît que vous prenez énormément de notes.
En fait, si vous voulez, mon job, c'est la médecine préventive. Donc, je vois des gens qui se disent en bonne santé, je regarde par où ils risquent de bugger. En fait, ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut écouter. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire des livres pour dire ce que j'avais pas le temps de dire en consultation, et je dois l'avouer, parfois ce que je n'osais pas dire en consultation. Et en fait, cette médecine préventive, c'est une médecine extraordinaire, parce que c'est une médecine qui évite d'être malade. Dans la Chine ancienne, on allait voir son médecin quand on était en bonne santé, on le payait. Si un jour on était malade, on le payait plus, et on mettait une lanterne rouge à l'entrée de son cabinet, ça voulait dire qu'il avait failli. Donc en fait, ma passion, c'est justement de tout faire, de mettre le paquet pour que les gens ne soient pas malades. Et c'est énormément de règles, il y a des centaines de règles en termes de nutrition, d'hygiène, qui changent tout. Et ça avance, on a fait des découvertes étonnantes, comme récemment la spermidine. La spermidine, ça vient du sperme effectivement. On s'est aperçu qu'il y a des aliments qui sont riches en spermidine, comme certains fromages, certains champignons, etc. Eh bien, les centenaires ont un taux de spermidine beaucoup plus élevé. Alors, on s'est dit, on va donner aux souris un régime riche en spermidine. Eh bien, tenez-vous bien, elles ont 25% de vie en bonne santé en plus.
Quels sont ces aliments ?
Alors, ça va être long à expliquer ce matin, c'est tout un régime, mais vous avez par exemple certains fromages donc, qui contiennent un taux de spermidine élevé, certains champignons, certains légumes. Donc, vous pouvez vous faire un... Vous savez, il y a des aliments où vous mangez pour vous et d'autres contre vous.
Stéphanie Texier, notre réalisatrice, nous réclame quel fromage ? Et dans quel fromage on retrouve ?
Alors écoutez, ça va être une longue liste. Je vous en donne un, le Roquefort par exemple. Roquefort.
Michel Lejoyeux.
N'oublions pas quand on parle de prévention, et on est tous les deux d'accord là-dessus, que ce n'est pas une remise en cause des traitements. Moi, j'y tiens vraiment beaucoup à ça. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des comportements, des manières de manger qui, par exemple, augmentent la bonne humeur, augmentent la santé physique, mais surtout qu'on ne nous écoute pas en disant « je vais arrêter un traitement efficace ».
Il y a un avertissement en exergue de votre ouvrage, hein, Frédéric Salmann.
Oui, parce que moi, je travaille à l'hôpital exclusivement. Et oui, je prescris aussi des médicaments quand j'ai pas le choix. Je veux dire que c'est une médecine auquel Michel Lejoyeux et moi, on est très attachés, très classique. Mais on mobilise, on met vraiment tous nos moyens sur la prévention.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Ce qui est important quand même dans votre discours, c'est que le médicament, en fait, n'est pas indispensable quand même au traitement et même en prévention secondaire, puisqu'on voit le diabète, l'hypertension peuvent aussi être mieux contrôlés avec une meilleure alimentation et de l'exercice, par exemple. Oui, et ça, vous le dites quand même bien dans vos livres.
C'est vrai, parce que parfois, j'ai des patients qui viennent et me disent « je ne comprends pas, je prends bien tous les jours mon comprimé pour le cholestérol et pourquoi j'ai fait un infarctus ?» Attention, un infarctus, c'est plein de facteurs de risque. On en contrôle un, c'est pas parce qu'on va contrôler les autres. Si les gens continuent à être trop gros, pas faire d'exercice, etc., ils prennent des très gros risques et le cachet n'est pas du tout un paratonnerre. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on, en fait, quand on peut tellement bien faire pour notre santé. Autrefois, on pensait que c'était la génétique qui était clé. Ben, pas du tout, parce qu'on s'est aperçu qu'en étudiant des vrais jumeaux, celui qui a une vie saine, qui fait du sport, qui est mince et tout, a une durée de vie beaucoup plus longue que celui qui fait n'importe quoi. Donc en fait, c'est nous-mêmes qui construisons notre santé. Et c'est pour ça que c'est fondamental de connaître toutes ces petites règles pour justement éviter de tomber dans la case maladie.
Baptiste Beaulieu, que vous inspire cette médecine du bon sens? Je rappelle que vous consultez dans un cabinet de médecine générale à Toulouse.
Bon, moi, ça m'intéresse parce qu'en tant que médecin, c'est vrai que j'essaye de médicamenter le moins possible mes patients. D'abord pour leur éviter les effets secondaires de la plupart des médicaments, et surtout parce que j'ai grandi dans les années 80, à l'époque du tout antibiotique, et qu'on s'aperçoit maintenant à quel point ces bombes atomiques qui détruisent complètement tout le microbiote peuvent avoir des effets secondaires importants à long terme. Et donc c'est intéressant, et ça me paraît effectivement de bon sens que d'avoir une vie saine dans un corps sain. Après, moi j'ai grandi aussi à une époque où à la faculté de médecine, on nous apprenait ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine fondée sur des preuves. Et donc j'ai toujours besoin, mais ça c'est des formations professionnelles, qu'on m'explique d'où viennent telles assertions, quelles sont les études, si elles ont été faites avec une grande puissance, c'est-à-dire beaucoup de participants, si elles ont été faites de manière randomisée, c'est-à-dire si on a mis d'un côté et de l'autre les participants de façon aléatoire, si elle a été faite en double aveugle, c'est-à-dire si les médecins qui participaient à l'étude étaient sachant ou ignorant des médicaments ou du placebo qu'ils distribuaient aux participants. Et du coup, c'est intéressant ce que vous dites, à condition qu'il y ait une bibliographie qui me paraisse suffisamment fournie.
Michel Lejoyeux.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Notamment, il y a une étude qui vient de sortir dans la meilleure revue de psychiatrie nord-américaine qui a comparé l'effet des antidépresseurs à une demi-heure dans le chaud, hein, 50 degrés, un sauna, un hammam, etc. Et qui a montré, pas du tout pour dire qu'il faut arrêter les antidépresseurs, mais qui a montré un vrai effet totalement contrôlé sur l'humeur. Donc quand on passe une demi-heure dans une pièce chaude ou dans un endroit assez chaud, on a un vrai effet sur l'humeur. Mais vraiment, ce que vous dites est essentiel. Pas de technique, entre guillemets, vaseuse, mais vraiment ce qui est fondé sur l'épreuve.
Frédéric Salman.
Oui, alors, ce que vous dites est juste, faut les études, moi c'est pour ça qu'à la fin de mon livre, je donne toutes les études référentes. Et puis j'ai eu un problème. Tiens, je vous en cite une. Un de mes patients, Il y a 2 ans, me dit, écoutez, quand j'ai très mal au dos, je mets mon chat dans un sac à dos, avec la tête qui sort, je marche pendant une demi-heure, et j'ai plus mal. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai regardé sur ma base de données.
Ça change sa posture, non?
Et j'ai pas trouvé d'études là-dessus.
Contrôlé.
J'étais bien embêté. Et puis, il m'a dit, bah oui, j'ai appris ça d'un ami qui fait la même chose. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Effectivement, quand on a mal au dos, il vaut mieux marcher que de rester dans son lit, mais ça suffisait pas. J'ai regardé chez le chat, je me suis aperçu qu'il émet des ronronnements entre une fréquence très particulière, très large, ça va être 40 à 140 Hz, dont certaines fréquences qui sont la même que des appareils de kiné.
Ah, les TENS, ce genre d'appareils.
Donc, et en plus, le chat a un système d'odorat fulgurant avec 200 millions de systèmes olfactifs contre nous, 4 millions. Donc, un outil diagnostique, un outil thérapeutique. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer, bon,
écoutez,
après tout.
Je vais faire mes marches avec.
Je vois très bien l'étude avec 200 participants qui ont un chat.
Je vais faire mes marches avec un chat dans le sac à dos.
Avec peu d'effets indésirables.
Mais on s'aperçoit en plus que les sujets qui ont un chat font 40% d'accidents cardiovasculaires en moins. Donc il y a un côté très apaisant avec le chat. Je voudrais que les chats soient remboursés par la sécurité sociale, s'il vous plaît. Merci.
N'hésitez pas à poser vos questions au docteur Frédéric Salman et à Michel Lejoyeux au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Claire Destacan et Antoine Vendée de Ville m'ont aidé à préparer cette émission et c'est réalisé par Stéphanie Texier. Christine, ça fait du bien pour commencer la semaine.
Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui docteur ou non docteur.
Grand bien vous fasse.
Oh oui docteur.
Sur France Inter.
10h29 et ce matin on se demande ce que vaut la médecine du bon sens avec les docteurs Frédéric Salman et Michel Lejoyeux et avec notre médecin maison Baptiste Beaulieu. Toutes vos questions au 01 45 24 7000. Pas mal de questions sur et de remarques sur notre page Facebook. Monique qui nous dit diabétique de type 1, je saute le petit déjeuner et à midi je fais une grave hypoglycémie. Alors sérieusement, la théorie de sauter des repas est à revoir totalement.
Bah bien sûr, quand quelqu'un fait une hypoglycémie, surtout pas. Vous savez, le principe du bon sens dans ce sens est simple. S'il n'y a pas de contre-indication de votre médecin traitant, eh bien faites l'essai. Est-ce que vous sentez mieux ou pas? Si vous ne sentez pas mieux, laissez tomber. Mais simplement, écoutez mieux les signaux de votre corps et en bon sens, décidez de ce que vous devez faire.
Michel Lejoyeux, question d'Isabelle. Pourquoi ne pourrait-on éduquer les enfants dès le plus jeune âge à prendre soin de leur santé physique et psychique?
Bien sûr, mais je crois que pour ça, il faut qu'ils aient des expériences, effectivement, dont ils voient les effets positifs. Moi, je ne demande pas mieux, mais vous savez, le champ du psychique est encore un champ chargé de tabous. Hein, c'est un champ dont on ne parle pas. Et peut-être que parler un peu de prévention psychique, c'est une manière de parler de psychisme aussi.
Baptiste Beaulieu, vous aviez une question sur les limites de la médecine préventive.
Oui, parce que sur le papier, cette idée d'une vie saine avec un corps sain, ça paraît évident, mais le problème, c'est la bascule vers l'hygiénisme et la culpabilisation des gens qui tombent malades et qui disent « Mon Dieu, je tombe malade, je l'ai mérité, parce que j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça, et quelque part, ce qui me tombe dessus, ben, c'est bien fait pour moi, quoi. » Et du coup, quelle est la part de subtilité à apporter au discours pour dire aux gens ce sont des recommandations, mais si vous les faites pas, que vous tombez malade, c'est pas non plus de votre faute, parce que une existence humaine, enfin c'est le drame de la condition humaine, on tombe malade de toute manière.
Quoi. Frédéric Salman.
Vous savez, l'histoire d'une vie saine, c'est ennuyeux, c'est pas vrai. 12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans pour les hommes comme pour les femmes, l'espérance de vie en bonne santé. Donc ça commence par des choses très joyeuses finalement.
Donc, Aline Perraudin.
C'était pas tout à fait la question.
Il est bon Frédéric Salman, hein, quand même. Hein. Répondez à la question Frédéric Salman.
C'est-à-dire que trop souvent on me dit oui mais vivre longtemps on va s'ennuyer, pas du tout. Au contraire, le bonheur fait partie de la longévité en bonne santé, on le sait depuis l'étude des télomères.
Non mais Baptiste parlait de la culpabilité. Ouais. Si on tombe malade et qu'on n'a pas suivi toute cette médecine préventive.
Chaque fois que je vois un patient à l'hôpital qui tombe malade, il se reproche dans sa vie, dans sa façon de s'alimenter, les erreurs qu'il a faites. Bon, quand on a une vie saine, c'est pas 100% de garantie, mais on met toutes les chances de son côté. Un exemple tout simple, si vous faites 30 minutes d'exercice physique par jour sans vous arrêter, les 20 premières minutes servent à pas grand-chose, mais après, on sécrète 1004 molécules protectrices comme les résines. Eh bien, si vous faites cet effort tous les jours, vous diminuez de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais je fais du sport le week-end. Je leur dis, tant que vous y êtes, vous lavez les dents que le week-end. C'est tous les jours. Ces molécules en particulier, pour la plupart, ne durent que 24 heures. Donc, vous n'avez un bouclier que pour 24 heures. Donc, c'est vrai que c'est pas 100% de moins. Mais déjà 40% sur simplement une activité physique, ben c'est bon à prendre.
Michel Lejoyeux.
Oui, puis je suis d'accord avec Frédéric Salman, une vie saine est plutôt plus agréable. Moi, j'en fais l'expérience tous les jours avec les personnes qui viennent me voir pour arrêter de boire, pour arrêter de fumer. On a aujourd'hui, objectivement, des effets positifs. Je leur fais même une consultation sur le mode du pari. Je leur dis, si vous n'allez pas mieux au bout de 15 jours, sans alcool en excès, hein, pourquoi pas un verre de temps en temps, ou sans cigarette, recommencez. Et aucun n'a envie de recommencer. Donc n'associons pas la vie saine à une sorte de tristesse. C'est pas du tout le cas.
Bonjour Catherine, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Quelle est votre réflexion sur notre sujet du jour ?
Ma réflexion, c'est que malgré tous les efforts que nous pouvons faire pour avoir une vie saine, en toute connaissance de cause, il est très difficile quand même de passer au travers de tout ce que l'alimentation nous propose, l'alimentation, je veux dire, de ce qu'on achète de tout fait, et qui est pleine de plastique, les poissons sont pleins de plastique, bon, ben, des pesticides, enfin bref, des tas de poisons que je découvre au fur et à mesure que je vieillis. Et donc, je me disais que peut-être... Tout ce que vous dites est très intéressant, mais qui le sait? Donc peut-être une éducation plus importante au niveau des enfants, des lycéens, des collégiens, une formation peut-être à quelques principes de bon sens. Voilà.
Frédéric Salman.
Qu'est-ce que vous avez raison, Fred ? Mon rêve, ça serait qu'il y ait un enseignement sur l'hygiène qui est à l'école, au lycée, etc. Vous savez, dans les années 60, on a arrêté tout cet enseignement. C'est plus la peine de s'embêter avec tout ça, il y a les antibiotiques. Mais c'était une erreur. Les règles d'hygiène, il y en a des centaines. Mais je peux vous dire que quand on les connaît, on passe au travers de bien des maladies comme la grippe ou la gastro-entérite.
On va revenir sur l'hygiène, mais sur l'alimentation. Catherine demande comment garder une bonne santé quand on ne peut même pas savoir ce que l'on mange. Voilà, avec les perturbateurs endocriniens, les poisons, les édulcorants, les additifs présents de plus en plus dans notre alimentation.
Alors bien sûr, il y a un problème de connaissance. C'est pour ça que Michel et moi, on écrit des livres pour donner ces messages. Si je prends une simple pomme, par exemple, si vous épluchez une pomme, on se débarrasse déjà de 90% des pesticides. Si vous enlevez les taches marron qui est dessus, c'est de la patuline, c'est un cancérigène, elle est encore plus saine.
Des tavelures ?
Oui. Donc, si vous voulez, tout ce côté, déjà, il y a des gestes sains. Ne laissez pas un citron infusé dans un soda ou dans un thé, parce que c'est bourré de pesticides au niveau de la peau. C'est transparent, mais si c'était noir, ça serait tout noir. En plus, c'est bioaccumulable. Donc, c'est en fait plein de petits gestes déjà très simples avec son couteau du quotidien pour manger sain.
Michel Lejoyeux.
Oui, mon livre s'est beaucoup appuyé sur l'histoire parce qu'on a eu longtemps une sorte de culture de la santé. Les hommes préhistoriques, pour le dire comme ça, utilisaient de manière culturelle certains aliments dont ils savaient que ça faisait du bien. On a retrouvé de la menthe, par exemple, des pieds de menthe autour des tombes des hommes préhistoriques. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la consommation régulière de menthe a un effet calmant sur les émotions, calmant sur l'impulsivité. Et pour le dire comme ça, cette culture alimentaire, c'est peut-être ça qu'il faut justement aller chercher dans les histoires ou les traditions anciennes.
Merci beaucoup Catherine de nous avoir appelés.
Bonjour facteur.
Bonjour François. Oh, hein ? Qu'est-ce qui vous arrive ?
Je viens de nettoyer mon grenier. Il y avait plein de vieux objets tout poussiéreux. Je me suis bien amusé, mais je crois que j'ai jamais été aussi sale.
Ah, pour sûr. ça tombe mal, ça.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?
Oh, ben vous, alors ? Vous n'avez vraiment pas de mémoire, mais... Regardez.
Grand prix de propreté.
Eh oui. Et juge désigné, Émile Campagne.
Eh oui, je l'avais complètement oublié.
Frédéric Salman, vous pourriez remporter un prix de propreté, comme dans L'île aux enfants, parce que l'une des bases, vous l'avez un peu évoqué, de votre médecine préventive, de votre médecine du bon sens, c'est l'hygiène, et notamment l'hygiène corporelle. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, votre truc c'est l'hygiène, et vous êtes le digne héritier des hygiénistes du 19e siècle. Alors, pourquoi est-ce qu'une bonne hygiène est essentielle pour prévenir les maladies, les pathologies ?
Si on prend les bonnes habitudes, on évite d'être malade pour rien. En particulier, alors c'est vrai que l'hygiène, c'est énormément de petits gestes, et parfois, c'est un petit peu trivial d'en parler, mais qui sont très efficaces.
D'abord, se laver les mains au moins 30 secondes.
Oui, alors se laver les mains, c'est bien.
Plusieurs fois par jour.
Mais se brosser les ongles le soir, c'est encore mieux.
Pourquoi ?
On a découvert, vous savez, sous les ongles, les microbes, ils ont du temps et de l'humidité pour se développer. Eh bien, on a découvert que les gens qui ont des ongles sales, puisqu'on se met deux fois par an les ongles à la bouche ou qui se les rongent, ont des entérobactéries plein la bouche. Les entérobactéries, c'est les bactéries qu'il y a dans le caca, tout simplement. Et c'est pour ça que ces gens ont mauvaise haleine. Donc je recommande, chaque soir avant d'aller au lit, de se brosser les ongles. Vous pouvez prendre une brosse à dents, mais pas la même couleur que celle des dents. Vous les brossez bien, et ça évite aussi, parfois, d'ensemencer le vagin avec des microbes pour rien. Donc c'est des petits gestes très simples, du quotidien, il y en a énormément, qui évite d'être malade pour rien.
Toujours en matière d'hygiène, vous préconisez la douche plutôt que le bain.
D'abord, pour la planète, c'est beaucoup mieux. En partant du haut et en descendant, parce que vous savez, dans le bain, les Japonais ont une bonne idée. Moi, j'adore aller au Japon et mes livres sont traduits là-bas. C'est qu'ils prennent une douche avant d'aller dans le bain pour pas être dans la crasse. Regardez la tête de la baignoire quand elle s'est vidée. Après, vous aurez compris l'histoire. C'est très facile. En plus, leurs toilettes au Japon, chapeau, elles sont propres. Ils n'utilisent pas de papier. Comme beaucoup de pays, c'est de l'eau.
On va revenir sur la toilette intime, mais certains dermatologues préconisent de ne pas se laver tous les jours. Je pense par exemple à la dermatologue Nina Ross, citée dans le journal 20 minutes, je la cite, « Notre peau n'est pas faite pour être décapée tous les jours. Beaucoup de gens se savonnent deux fois par jour. Ça dissout le gras de l'épiderme qui joue un rôle de ciment intercellulaire. »
Je dirais qu'il faut utiliser des savons doux une fois par jour. C'est suffisant, mais ça dépend de l'activité, de la chaleur.
Mais sur la douche tous les jours, certains dermatologues préconisent une douche tous les deux jours.
Vous savez, ça dépend aussi des odeurs que vous dégagez. Mmh. Les gens, parfois, il y a des gens qui dégagent des odeurs très fortes, très vite, et ça peut gêner un petit peu l'entourage.
Des fois, quand je vais très mal dans le métro, je me dis, quand je pense que ces 100 personnes vont aux chiottes, quelle certitude j'ai qui se lave le cul après.
Mais
parce que moi, je suis très, très mahométan.
Mais, ah oui, mais vous êtes très hygiéniste.
Oui, c'est-à-dire que moi, je me lave les mains après
vous
les toilettes.
Vous faites vos ablutions.
Et je fais, je me lave les fesses.
Bravo.
Parce que le concept de l'essuyage est très incertain.
Fabrice Lucchini, dans Remède à la mélancolie sur France Inter en 2017. Frédéric Salman, vous consacrez plusieurs pages de votre nouveau livre au lavage de la zone anale. Pourquoi est-ce que c'est si important?
Écoutez,
pourquoi vous insistez autant dessus?
Un chiffre. 41% des Français ont des problèmes avec leur anus. Que ce soit des hémorroïdes, des marises, des fissures, c'est beaucoup. En plus, la peau, ça fait mal. La peau de l'anus, c'est un peu comme la peau qu'on a sous les yeux. Elle est très fragile. Alors, c'est vrai qu'il y a des réflexes à avoir aux toilettes. Il se trouve que le papier, c'est pas très hygiénique. Mettez du caca sur votre bras, séchez avec du papier, santé après, vous aurez compris l'histoire.
Bon appétit si vous déjeunez tardivement.
Donc, comme je le dis dans le livre, pour éviter d'avoir un vieil anus ridé, très simplement, il y a des gestes à avoir. Premièrement, il vaut mieux s'essuyer accroupi que debout. Très simplement. Regardez quand vous avez fini de vous essuyer debout, la tête qui a le papier que si vous vous essuyez ensuite accroupi.
Vous préconisez également une position. Il y a une position idéale.
Oui,
mais
il vaut mieux être accroupi, ce que je disais, mais surtout de se laver, prendre une douche après, c'est beaucoup mieux.
Mais sur la position, c'est important, d'être surélevé.
Oui, alors ça, c'est pour la constipation. Oui. Je m'explique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent un temps fou sur le trône, et si vous... En fait, la position sur le trône n'est pas physiologique. L'angle anorectal est trop fermé, c'est comme un tuyau plein d'eau qui n'arrive pas à se vider. Si on soulève les jambes en mettant un petit tabouret en face, on ouvre l'angle anorectal et une étude a montré qu'on gagne une heure par semaine. On se débarrasse de la constipation et des gaz en même temps.
Baptiste Beaulieu.
C'est ce que je préconise pour mes patients qui ont parfois une constipation opiniâtre, c'est de mettre des petites boîtes à chaussures devant les toilettes, de poser les pieds dessus et que ça crée une antéversion du bassin qui permet quand même de déféquer de façon beaucoup plus naturelle.
Michel Lejoyeux.
En tout cas, merci au docteur Salman. J'ai vu qu'au moment où on a parlé des ongles et des bactéries sous les ongles, un niveau de stress considérable est monté dans ce studio. Donc, c'est comme ça qu'on a besoin après d'action sur la bonne humeur. Merci beaucoup, docteur Salman.
À propos de l'hygiène, Frédéric Salman, l'une de vos bêtes c'est la poussière. Il faut traquer pour vous les microbes, la poussière partout dans la maison, notamment dans la salle de bain et dans les petits trous de la pomme de douche.
Oui, parce que sinon, si vous nettoyez pas votre pomme de douche, ben vous allez vous arroser tous les jours avec de la crasse. Donc une fois par mois, il faut savoir la nettoyer parce que les germes s'accumulent. Vous savez, c'est des tas de petits gestes simples qui font que les gens se rendent malades à la maison parce qu'ils n'ont pas pris les bons réflexes. Tiens, un autre, quand les gens vont aux toilettes aux États-Unis, ils abattent le couvercle et tirent à la chasse d'eau après. Pourquoi? Parce que une étude scientifique a montré que dans ce cas-là, vous avez des bactéries, virus, plein le carrelage, plein la gorge, plein les poumons, et ça augmente de 30% les infections ORL respiratoires. Il faut abattre le couvercle, tirer la chasse d'eau après. Mais les Français sont tellement fiers de ce qu'ils ont fait, ils regardent, ils admirent, ils tirent la chasse d'eau, ils respirent.
Quels sont les grands principes de l'auto-check corporel que vous préconisez quand on est dans sa salle de bain le matin?
Oui, ben, tout simplement, premier point, il faut se peser une fois par semaine pour regarder son poids. Regardez si on n'a pas de grains de beauté bizarres, tout simplement, et demander si on vit avec quelqu'un de regarder dans le dos s'il n'y en a pas. Aussi, de s'observer aussi bien les selles qu'on a au niveau des toilettes, s'il n'y a pas de sang, si les selles sont formées normalement. Il faut regarder ses urines. Vous savez, il faut s'observer et regarder s'il n'y a pas des petites choses qui bougent, tout simplement.
Ouais, en tant que médecin généraliste, je peux pas vous laisser dire ça parce que sinon le nombre de consultations qu'on va avoir au cabinet va exploser. Tout le monde va venir dire ah, j'ai les selles trop molles cette semaine ou j'ai un grain de beauté un peu bizarre qui était pas là la semaine dernière. Ça va être terrible.
Allez, il est temps de retrouver la chronique. Alors voilà, de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt. Je venais une heure plus tard. J'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Tous les lundis, Baptiste Beaulieu, vous nous racontez une médecine à visage humain.
Oui, Ali, et l'autre jour, je fais entrer une patiente. Elle a 22 ans, elle a sa pimpante. Bonjour, je viens pour un vaccin, dit-elle. Elle s'installe sur la table d'examen, relève sa manche, dégage le muscle deltoïde et attend que je prépare le vaccin. Vous savez, on purge la seringue, on fait sortir les petites bulles d'air. Elle sourit tellement en me tendant le vaccin, on a l'impression qu'elle veut que je compte ses dents. D'ailleurs, je ne m'aperçois même pas qu'elle tremble de la tête aux pieds. C'est seulement quand je m'approche avec la seringue et l'aiguille que son sourire se fracasse. Elle a peur. Elle a peur de l'aiguille et de moi qui tiens l'aiguille. Moi qui, bêtement, comme un perroquet, parce que j'ai parfois l'habitude de dire ça et que c'est terrible l'habitude et les petites phrases toutes faites, je la regarde et pensant la rassurer, j'annonce cette phrase qu'on pourrait dire aux enfants « Ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal ». Eh bien, à ce moment-là, Ali, et je ne la remercierai jamais assez pour cela, elle m'a regardé droit dans les yeux et elle a dit « Ben si, docteur, ça fait mal. » Elle a raison. Évidemment que ça fait mal. Alors, c'est pas un accouchement non plus, mais oui, quand même, même quand c'est bien fait, un vaccin, ça reste une aiguille qui va injecter 2 ml de liquide dans un muscle. Chaque patient est différent et la médecine du bon sens, c'est aussi cela, s'adapter à chacun parce qu'il est unique et apprendre à se défaire des petites phrases toutes faites. Ce jour-là, cette patiente a besoin que je lui dise que oui, sa peur n'est pas sans motif et que oui, ce n'est pas agréable. Elle est légitime à ressentir ce qu'elle ressent. Je lui ai dit « Vous avez raison, ça fait mal ». Elle a hoché la tête, elle est contente que je ne minimise pas son ressenti, puis elle se remet à sourire comme si elle voulait que je compte ses dents et je peux vacciner sans problème. Eh bien, vous savez quoi, Ali ?
Ben non, vous allez me le dire.
Elle avait 32 dents. Je le sais, j'ai pu compter.
Très bien. Merci beaucoup, Baptiste Beaulieu. Votre chronique est à voir en vidéo sur le site de France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse et également, bien sûr, sur votre blog. Alors voilà. Allez, nous attendons toutes vos questions et réactions au docteur Salman et au professeur Michel Lejoyeux au 01 45 24 7000.
Tu aimerais te perdre au pas de la foule, au bras d'une rivière ou d'autres amours. Ne plus tenir ce que t'as laissé passer, redevenir comme autrefois plus léger. Elle ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes. Elle ne te quitte pas. Toi tu voudrais tailler la plaine en ma bâche,
Les Innocents interprétés à Apache.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h49 et on s'intéresse ce matin à la médecine du bon sens avec le docteur Frédéric Salmann et le professeur Michel Lejoyeux. Alors, un message sur notre page Facebook pour vous, Frédéric Salmann, un message du docteur Pascal Prévost. Comment Frédéric Salmann peut-il concentrer autant d'incohérences en une seule phrase concernant l'exercice physique? Depuis quand les 20 premières minutes d'un exercice physique ne servent à rien? Les données scientifiques vous donnent tort. Qu'est-ce que vous avez à répondre, Frédéric Salmann? Docteur Pascal Prévost.
Eh ben, tout simplement, dans les études scientifiques, justement, dont il parle, on montre que le bénéfice maximum se situe au-delà de 20 minutes. C'est là où on a une étude qui a été faite formidable, qui montre toutes les molécules relarguées, mais qui ne démarrent pas tout de suite. Alors, parfois, si on démarre à jeun, en séant bien hydraté, ça va plus vite. Mais le métabolisme est ainsi fait que on brûle ses graisses ensuite, on brûle les sucres d'abord, et les molécules protectrices arrivent à la fin.
Baptiste Beaulieu.
Oui, il me semble que le docteur Salmann a raison par rapport à la lipolyse, c'est-à-dire la brûlure des graisses, justement, ce qui intéresse en général quand on fait de la course, c'est que ça intervient une fois que l'organisme est bien chaud, quoi, bien chauffé.
Bonjour Eric, vous appelez de Paris, bienvenue.
Oui, bonjour. Nous sommes déjà parlé à propos de tourisme il y a quelques temps déjà.
Bon, très bien. Hôtel.
Je me permets simplement de vous appeler parce que j'ai entendu parler tout à l'heure de médecine préventive. Je suis actuellement soigné à l'hôpital Sainte-Anne pour une dépression caractérisée sévère et je me demandais si vos invités étaient capables ou étaient éventuellement en mesure de, sinon, prodiguer des conseils en dehors de neurologues, de psychiatres et autres médications à base de sérotonine, mais de contribuer peut-être par des conseils à lutter contre cette dépression qui vous tombe dessus comme la misère sur le pauvre monde, et que l'on ne prévient pas. En parler de médecine préventive, on peut connaître les raisons, essayer d'analyser les raisons, et dans ces cas-là, il faut aller très très loin jusqu'à l'enfance pour essayer de l'expliquer. Mais est-ce qu'il y a, en matière de mode de vie ou d'alimentation, on parle du microbiote et d'intervention peut-être de ces fameux microbiotes dans le phénomène de la dépression, je voulais savoir, connaître finalement leur opinion et savoir s'ils avaient, encore une fois, non pas des méthodes magiques et des formules magiques, mais...
Professeur Michel Lejoyeux, pas de formule magique, évidemment. Pas de concurrence entre la médecine classique et la médecine préventive. Hein. Pas une espèce de formule qui dirait jeter aux orties tous les traitements qu'on vous donne et retombons dans la médecine du 19e siècle avant les psychotropes. Bien évidemment, dans certains cas, les psychotropes ont été utiles. Quelques informations quand même. Une activité physique, là encore, va augmenter les endorphines et le facteur de croissance des neurones. Si on veut éviter un certain nombre de maladies, que ce soit les maladies neurodégénératives ou les maladies psychiatriques, il vaut mieux bouger que de rester à sa table à faire des exercices difficiles. Un secret qui nous vient des hommes préhistoriques et qui est confirmé par l'épidémiologie, c'est que quand on ne prend pas trop de sucre rapide, quand on prend moins de soda, moins de boissons qui vont nous donner des pics d'hyperglycémie, puis après de l'hypoglycémie par stimulation de l'insuline, on va mieux. C'est montré chez les ados, moins de dépression, moins de troubles de l'humeur chez ceux qui prennent moins de sucre rapide. Et les hommes préhistoriques avaient un aliment, puisqu'on parle des aliments un peu magiques. Je vous ai parlé de l'amande, je vous parle d'un deuxième, qui sont les graines de caroub, hein, qu'on a beaucoup retrouvé dans cette alimentation, qui va donner des sucres lents. Et puis une troisième chose étonnante, on a découvert un pouvoir qui est le pouvoir du bavardage. Peut-être ce qu'on est en train de faire ce matin. Que être capable de parler sans forcément essayer de convaincre l'autre. Parler en accordage émotionnel. Parler en étant direct, là aussi ça fait du bien. Puis une dernière chose que je voudrais dire, c'est que là encore on a des études génétiques qui nous montrent les gènes protecteurs et les gènes plutôt exposant, diminuant l'espérance de vie. On s'aperçoit que la capacité de temps en temps à déprimer, à se replier. Ça a été une capacité protectrice, notamment à la préhistoire. Si vous sortiez en hiver dans les temps de glaciation, vous étiez plus à risque. Donc, accepter aussi certains moments de moins bonne humeur, là encore, tout en les traitant, est aussi un facteur de résilience.
Mais là, vous parlez de déprime, Michel Lejoyeux, et notre auditeur Eric parle de dépression. Comment faire pour justement limiter les effets d'une dépression en complément, bien sûr, d'un traitement ?
Eh bien, toutes ces stratégies de vie, là encore, pour ne pas remplacer un traitement, mais en complément, vous savez, dans toute la médecine, que ce soit la cancérologie, la cardiologie, on propose et des médicaments et des interventions sur les attitudes de vie.
Merci beaucoup Eric de nous avoir appelé. Frédéric Salmann, pour vous, ne pas faire d'activité physique, c'est comme passer toute sa vie sans tirer la chasse. Et quelle est d'ailleurs la dose minimum de sport par jour pour essayer de prévenir un maximum de maladies ?
C'est essentiel parce que avec 30 minutes d'exercice physique par jour, on a la dose minimum et tout le monde a le temps. Parce que Jean-Michel, j'ai pas le temps. Mais c'est pas vrai, c'était bobard. Par exemple, ce matin, avant de venir, j'ai passé une heure sur mon vélo d'appartement à faire mes mails, mes SMS, mes coups de fil et regarder Internet. Et bien, tout simplement, on passe tous ce temps-là tous les jours. Il suffit d'avoir simplement un vélo d'appartement chez soi ou marcher vite. Et d'un seul coup, ça change la donne.
Aline Perraudin.
Et c'est tout type de sport ou d'activité. Il y a une étude récente américaine qui vient de montrer que, par exemple, la capacité à faire un certain nombre de pompes d'affilée pourrait permettre d'évaluer le risque cardiovasculaire. Et chez des hommes actifs, qui avaient en moyenne 40 ans, c'était des pompiers, ceux qui ont réussi à faire plus de 40 pompes d'affilée ont présenté un risque cardiovasculaire 96 fois moins élevé que ceux qui n'arrivaient pas à en enchaîner 10. Ça pourrait même devenir un moyen simple pour tester le risque cardiovasculaire.
Vous avez raison, vous savez, c'est l'activité qui nous maintient. On est comme des montres automatiques, on se recharge dans le mouvement. Si on ne fait rien, on perd 1 à 2% de muscles par an. Donc à un moment donné, ce qui explique tout le problème de chute qui peuvent mettre la vie en danger, même pour l'intellect, en 3 semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuel. Donc c'est l'activité...
Même si on fait du sport ?
Même si on fait du sport. Einstein le disait, la vie c'est comme la bicyclette. On arrête de pédaler, on tombe. Donc ce mouvement, c'est notre meilleure protection.
Michel Lejoyeux.
Et je voudrais qu'on entrecoupe ce mouvement de moments où on se concentre sur soi-même, on se concentre sur l'instant présent, très simplement. Mon ami Christophe André le raconte souvent chez vous, mais prendre une tasse de thé, prendre le temps de boire ce thé, rajouter peut-être quelques carrés de fruits dedans. N'imaginons pas que parce qu'on fait de l'activité physique, on va devoir courir en permanence. Cette activité physique va être aussi entrecoupée de ces moments de concentration sur l'instant présent, d'harmonie corps-esprit. Vous imaginez un drone qui passe au-dessus de votre tête et qui descend jusqu'à vos pieds. Vous allez comme ça faire une expérience qui reconnecte votre corps et votre esprit. Tout est complémentaire. Activité, oui. Frénésie permanente, non.
Et sans oublier les exercices de respiration que l'on retrouve par exemple dans le tai chi, le qigong. C'est essentiel pour prévenir peut-être le stress, l'anxiété.
Prévenir et même traiter. Moi, j'ai tout un chapitre de mon livre sur la médecine chinoise, à quel point justement cette respiration va nous apprendre à traverser notre corps et notre esprit d'éléments positifs.
Baptiste Beaulieu.
Oui, c'est l'exercice de respiration. Il faudrait qu'on apprenne aux enfants aussi à savoir respirer. Et en cas de stress, comment gérer ce stress par la respiration abdominale qui fait baisser la tension. Puisque vous disiez tout à l'heure, c'est très important. Moi, je le constate au cabinet médical tous les jours. La sédentarité, c'est le mal absolu quoi, pour les patients. Ils ont mal au dos, ils dépriment. Voilà. Et dès qu'ils se remettent un petit peu à une activité physique régulière, le mal de dos disparaît, la dépression s'en va également, d'autres petits symptômes qui pouvaient les gêner partent également. Et on doit faire la promotion de l'activité physique et sportive, je pense.
Oui, c'est très important. Et de parler. Dans le mot maladie, il y a mal à dire. Et quand on n'arrive pas à dire ce qui ne va pas, le langage du corps, c'est la maladie.
Allez, vous reviendrez à Frédéric Salmann et Michel Lejoyeux pour parler notamment de longévité, de sexualité ou encore de diététique. Merci Michel Lejoyeux. Donc la médecine du bon sens est publiée chez La Thèse. Frédéric Salmann, Vital, est publié chez Albin Michel. Demain, merci Baptiste Beaulieu et Aline Perraudin. Demain, on s'intéresse aux différentes formes de baby blues, de la déprime passagère à la dépression qui s'installe durablement, en passant par le déni de grossesse ou encore l'anxiété ressentie par la femme enceinte. plainte. On s'intéressera également à l'entourage. Nous recevrons le pédopsychiatre Jacques Dayan et l'infirmière puéricultrice Anne Lucas. Question témoignage sur les baby blues au 01 45 24 7000.